Salut, c'est Samuel Catol. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Bise de Tour. Je suis le créateur et le réalisateur de cette série de podcasts. Dans cette série, j'invite des entrepreneurs de TPE-PME à venir échanger et nous partager leur histoire et leur parcours. Découvrir comment ils en sont arrivés là. Dans ce podcast, je te propose une semaine sur deux de partir à la rencontre d'une ou d'un entrepreneur avec qui j'échange sur son quotidien, ses succès, mais aussi ses échecs, ses craintes et ses galères. Découvrir ensemble ce qui fait de lui ou elle un entrepreneur en toute décontraction et transparence. Ainsi, pour nous suivre et ne pas louper les prochains épisodes, tu peux dès maintenant t'abonner sur notre page Bise de Tour sur la plateforme podcloud.fr ou sur la plateforme de ton choix. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un entrepreneur lors d'une matinale pour dirigeants d'entreprise, Jean-Christophe Guignabaudet. Un entrepreneur quelque peu particulier. D'une, de par son parcours qui ne le prédestinait pas au développement de cette entreprise qu'il a cofondée avec sa sœur, Cap Family. De deux, de par les activités et services qui y sont proposés. Ainsi, je suis heureux de t'accueillir. Bonjour et bienvenue Jean-Christophe. Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va impeccable.
Bon, comme il est de coutume, hein, dans ce podcast, je vais commencer par la toute première question. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter ?
Ok, donc je suis Jean-Christophe Guignabaudet, j'ai 51 ans et je vis en famille près de Tours. Je suis papa d'une fille de 20 ans et d'un fils de 4 ans. Je ne voulais pas trop rapprocher, donc ça tombe bien. J'ai vécu les 10 premières années de ma vie dans l'abri, en rase campagne, puis les 10 suivantes à Paris. Ça a fait un changement radical, un choc pour moi. Et après, j'ai tout fait pour m'éloigner, retourner en province, dans des endroits un peu plus champêtres, on va dire.
Oui.
Donc j'ai passé 4 ans à Douai pour mes études, 1 an à Brignoles pour le service national chez les pompiers militaires.
Oui.
Et ensuite, mon métier m'a emmené en Vendée, à Grenoble, dans la région de Châtellerault et de Tours, on va dire région élargie dans laquelle je vis depuis 22 ans.
D'accord. Bon, tu t'es baladé en France.
Voilà, je suis ravi d'avoir un petit peu baroudé, ce qui m'a offert une certaine ouverture d'esprit, on va dire.
D'accord. Et ton parcours scolaire, quel est-il ?
Alors, je suis de nature ingénieuse, très cartésienne, mais aussi empathique. J'ai pas mal de facilités techniques, ce qui m'a conduit à réaliser des études d'ingénieur. Études qui m'ont elles-mêmes ensuite conduit vers un parcours industriel, essentiellement focalisé sur le management des hommes et la gestion de projets pendant 22 ans.
D'accord.
Donc, j'ai vécu une grosse variété de métiers. En fait, je ne me destinais pas à une croissance verticale, vers le haut, hiérarchique et tout ça. J'ai préféré butiner plusieurs métiers de façon transversale, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences tant en management, en organisation, en analyse et en résolution de problèmes, quels qu'ils soient, et enfin en direction de sites industriels et commerciaux.
D'accord.
La fin de ce premier parcours professionnel a également été marquée par une certaine lassitude de faire les 35 heures deux fois par semaine,
ouais,
pour courir après des objectifs qui avaient finalement de moins en moins de sens à mes yeux.
Oui, je comprends. Donc aujourd'hui, tu as ce parcours et tu as une nouvelle activité. Quelle est-elle ?
Alors, mon activité principale depuis 5 ans consiste à coordonner et développer une entreprise de service à la personne que j'ai cofondée, qui s'appelle Cap Family,
oui,
et qui est spécialisée dans le handicap. Elle apporte depuis 6 ans des solutions d'accompagnement autour du domicile de personnes porteuses d'autisme notamment.
D'accord. Et quelle est la jeunesse de ton entreprise ?
Je suis issu d'une famille qui a connu d'immenses réussites. Hein. Mon père a eu une belle carrière professionnelle, ma mère est écrivain, bon... Ça ne fait pas bouillir la marmite, mais ça lui a permis de bien s'exprimer aussi dans son art.
Oui.
Donc voilà, je considère qu'on est venir d'une famille qui a connu vraiment des belles réussites, notamment professionnelles, affectives aussi, puisque mes parents ont vécu ensemble depuis maintenant 60 ans. Ils sont toujours ensemble et c'est une de leurs plus beaux succès, on va dire.
Mmh.
Mais on a aussi connu de grands malheurs dans cette famille, et notamment au travers de ma sœur aînée, qui est épileptique de naissance,
oui,
et dont les deux enfants sont porteurs d'autisme sévère.
D'accord.
Pour se rendre compte du cauchemar qu'elle a pu vivre, hein, imagine un enfant de 15 ans, non verbal, pas propre, à peine autonome pour s'habiller et se nourrir.
Oui.
Voilà, c'est à peu près ce qu'elle a vécu pendant les 20 premières années de l'éducation de ses deux enfants.
D'accord.
À un moment, au bout d'une vingtaine d'années, justement, elle a disposé d'un peu plus de temps pour elle et elle a souhaité faire profiter de son expérience du handicap à toutes ces familles qui passent derrière elle en leur apportant ce qui lui avait le plus manqué, en fait, dans ce parcours du combattant. Il s'agit de solutions de garde adaptées à des enfants différents.
D'accord.
Il nous a fallu presque un an et demi pour créer le projet, en parallèle de mon job d'industriel à l'époque, de la première idée jusqu'à l'obtention de l'agrément, en passant par le brainstorming, l'étude de marché, la création du modèle économique, la création de la marque, du site internet, le dépôt des statuts et la fameuse obtention d'agrément. Donc ça a été pas mal de boulot en parallèle, donc ça m'a bien chargé aussi, mais j'étais très heureux de créer toute pièce cette entreprise qui a permis d'offrir à ma sœur une occupation saine et surtout une reconnaissance sociale dont elle avait tant besoin. Et puis, à un moment, l'envie de développer cette entreprise a pris le dessus et m'a encouragé à changer ma trajectoire professionnelle pour la rejoindre dans le développement dans le développement opérationnel, oui, de cette initiative.
D'accord.
Cette opportunité est tombée à pic au regard, comme je disais tout à l'heure, du niveau de saturation que j'avais atteint dans mon parcours industriel et qui aurait pu me coûter mon intégrité physique et mentale si j'avais persévéré ne serait-ce que quelques années de plus.
Ouais, je comprends.
J'ai dans mon entourage quelques potes, des potes de promo notamment, qui ont fait des burn-out. Ouais. Tu sais, quand tu commences, quand tu le fais, tu ne sais jamais quand est-ce que tu en sors vraiment. Donc, je suis très heureux d'avoir réagi avant que ça se passe mal et que les ennuis commencent vraiment à démarrer, quoi.
Bon, là-dessus, tu prêches un convaincu.
Ouais.
Alors, Cap Family, hein, tu m'avais présenté cette entreprise il y a quelques semaines, hein, quand on s'est rencontrés. Et je me suis posé la question, quel était le modèle économique ?
Alors... Déjà, le modèle économique s'imbrique déjà dans un cahier des charges, qui est le service à la personne. On ne peut pas y aller en franc-tireur et puis faire n'importe quoi et vendre n'importe quoi à n'importe qui.
Oui.
Il fallait déjà choisir quel type de service à la personne. Là, on rentre un peu dans la technique. Hein, il y a des services mandataires, prestataires, etc. Donc nous, on a choisi un service mandataire pour deux raisons essentielles. Dans le handicap, on n'est pas... comme dans le ménage, le repassage, la garde d'enfants, qui sont tout à fait nobles, hein, bien sûr, hein, chacun son métier, mais on va dire qu'un appartement, quand tu le nettoies, c'est un appartement, des vitres, c'est des vitres, et un sol, c'est un sol.
Ouais.
Alors que dans l'autisme, notamment, il n'y a pas deux cas d'autisme identiques, et donc il n'y a pas deux besoins identiques. Et donc la variété de compétences et de connaissances qu'il faut avoir pour être sûr d'accompagner la bonne personne de la bonne façon fait que si on était prestataire avec nos 10 employés, voire 11, 12, voilà, et puis qu'évidemment, dès qu'il y a une nouvelle famille qui lève la main, on va lui proposer l'employé qui est disponible à ce moment-là, qu'il ait ou pas les bonnes compétences, la bonne appétence, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, il y en a qui ont des troubles du comportement, d'autres qui n'en ont pas, des verbaux, non-verbaux. Chaque intervenant a les compétences et l'envie ou pas d'accompagner ces profils. Hein. Et donc, si on se contentait de proposer la personne qu'on a dispo à ce moment-là, on est à peu près certain de taper à côté et finalement de ne pas atteindre les objectifs de la famille et du bénéficiaire.
Oui.
D'accord. D'où l'idée de passer en mandataire, ce qui nous permet, dans chaque département, de côtoyer environ 150 intervenants. Et
d'accord.
Du coup, ça nous donne beaucoup plus de chances de trouver la bonne personne qui va répondre aux bons besoins.
D'accord.
Deuxième chose, en mandataire, les intervenants choisissent leur mission.
Oui.
Donc, il n'y a pas de relation hiérarchique entre nous, puisqu'ils seront, employés par les familles. Ce qui fait que, ils choisissent. Moi, cette famille m'intéresse, cette mission m'intéresse. Par contre, celle-là, ce n'est pas pour moi. Voilà. Donc, ce n'est pas le boss qui lui dit, toi, tu vas bosser là. Et il y va à reculons si ça ne lui convient pas.
D'accord.
Un gage de motivation supplémentaire pour eux.
Ah, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur ?
Alors, moi, j'ai toujours été très créatif et très ingénieux. Je pense qu'une condition pour l'entrepreneuriat choisi, c'est d'avoir une idée.
Oui.
C'est la base. Toi-même, tu as un parcours dans le son, la musique et tout ça, qui a fait que tu es parti sur cette idée, tu as voulu la développer, c'est quelque chose d'innovant et tu es parti à fond dedans parce que tu y croyais. Bon, moi, j'ai toujours eu plein d'idées, en fait. Et cette capacité à créer m'a toujours habité. À 10 ans, je dessinais, je faisais des dessins en 3 dimensions de mes cabanes dans les arbres. Tu vois le genre, quoi.
Ouais. La 3D, ouais, déjà maîtrisée à 10 ans.
Et ouais, voilà, à 3D au crayon. Hein.
Ouais.
Voilà. À 35 ans, alors que j'étais chef de projet chez Valeo, un équipementier automobile leader sur ces marchés, j'ai commencé à avoir des idées de produits inspiré de la vie quotidienne.
Ouais.
Alors, quelques exemples, hein, sans vouloir entrer en technique, mais c'est pour faire voyager un petit peu, c'est marrant. À l'époque, j'avais imaginé, afin d'éviter d'être ébloui par les phares des voitures la nuit,
ouais,
de créer des lunettes équipées de micro-caméras et d'écrans à cristaux liquides transparents qui généreraient des petites taches d'ombre, en fait, sur les vitres des lunettes,
ouais,
sur les carreaux, quoi, ce qui permettrait de faire, en fait, cette petite tâche, générer une sorte de pare-feu entre la lumière du phare et les yeux, et donc ça évite l'éblouissement la nuit. Alors, évidemment, ce type de projet, pour être développé et commercialisé, ça nécessite des investissements en R&D, en process, qu'aurait exigé des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Il faut des dizaines d'ingénieurs, il faut faire des prototypes, des maquettes dans tous les sens, avec des process super complexes. Et c'est une bataille dans laquelle je n'étais pas prêt à me jeter à l'époque.
Ouais.
Je n'avais pas ni la maturité, ni les épaules, ni l'envie, tout simplement, d'y aller. Hein. Si je compare, par exemple, à une boîte comme, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des entreprises.
On va les citer, il n'y a pas
voilà,
de souci.
Je pense à Lime, les trottinettes électriques,
ouais,
locatives Lime. Hein. Donc, c'est des petites trottinettes noires avec un petit logo de citron là, vert. Bah, ce type-là, il a une idée. Il s'est dit, si je veux désengorger les villes des bagnoles, la pollution et tout ça, sachant qu'un vélo, c'est bien, mais c'est un peu encombrant quand on le met dans le métro et quand on monte au 6e étage,
oui,
bah, je vais inventer des trottinettes en location avec une petite application qui va bien, hein, façon Vélib, mais beaucoup plus souple, puisqu'on peut la garer à peu près n'importe où, qu'elle est, oui, géolocalisée, etc. Bon, bah, l'idée était géniale. Il a levé des centaines de millions d'euros, ce gars.
Hein,
par pays dans lequel il s'est investi. Donc ça, faut aussi du cran, faut aussi une grande détermination. À l'époque, je l'avais pas,
ouais,
mais je respecte énormément tous ceux qui l'ont et sont capables de se lancer dans ces batailles-là. 10 ans plus tard, donc vers 45 ans, les fameuses lunettes que je voulais inventer, finalement, les industriels seront passés autrement pour répondre à ce désagrément. C'est les voitures qui maintenant s'adaptent
la voiture croiseuse.
Voilà, au croisement des voitures, ouais, en changeant l'angle d'éclairage pour éviter d'éblouir ceux qui sont en face.
Ouais.
Voilà, donc c'est tous les bureaux d'études des équipementiers tels que Valeo et d'autres qui ont créé ces solutions et qui aujourd'hui les commercialisent directement chez les constructeurs.
D'accord.
Donc moi, plus tard, j'ai eu d'autres expériences, d'autres exemples d'idées, de produits, notamment associés à des services cette fois-ci, qui permettraient par exemple de retrouver des objets perdus.
Oui.
Alors j'ai fait des stages, j'ai pas mal épluché les études de marché de ce point de vue-là et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur parapluie, leur porte-monnaie, leur porte-clés, leurs ordinateurs, leur téléphone, etc. Des produits qui ont quand même de la valeur, hein, mine de rien. Et donc, mon idée, c'était de proposer sous forme d'une étiquette équipée d'un QR code à coller sur son téléphone, sur son portefeuille, etc., même si sur ses clés, de proposer ces produits qui s'appuient ensuite sur un site internet. Et en fait, la base, quelque part, ce produit était très simple. Hein, voilà, tu trouves des clés par terre, il y a un porte-clés, il y a un QR code, tu le scannes,
ouais,
et ça te met instantanément en relation avec le gars qui les a perdus. Vous pouvez vous mettre d'accord pour retrouver le produit perdu. C'est extrêmement simple. Ça existait déjà. Par contre, moi, l'idée, c'était de commercialiser ça au travers d'un business model très pertinent et novateur qui permettait d'offrir ce service à des millions de clients.
D'accord.
Et ainsi donner l'opportunité incitative et intuitive à celui qui retrouve l'objet perdu de contacter le client pour le lui restituer. Ce produit ne coûtant que quelques centimes, ne nécessitant ni carte SIM, ni batterie. Donc, je te le dis, ça existait déjà, mais c'était très mal marketé. Et c'est pour ça que tu n'en as certainement jamais entendu parler.
Ouais.
Un an, jour pour jour, après avoir eu cette idée, j'étais à deux doigts de le lancer. Il y avait quand même presque 100 000 euros à mettre sur la table. Je l'aurais fait en fonds propres, en empruntant. Enfin, voilà, c'était quand même un risque, mine de rien, personnel majeur. Et puis voilà, juste avant d'appuyer sur le bouton, j'ai découvert qu'un autre concurrent, avec des solutions mais franchement archaïques, hein, avait finalement pensé à mon modèle marketing, ouais, avec 6 mois d'avance sur moi.
D'accord.
Et là, je me suis dit, bah, Jean-Christophe, trop tard, mon pote.
Ouais.
T'es trop tard. T'es en retard sur ton temps, tant pis pour toi. Et donc, j'ai décidé de ne pas finaliser voilà, ce projet.
Ouais.
Voilà. Et c'est marrant parce que 5 ans plus tard, c'est finalement Apple, grâce à la surpuissance de son réseau communautaire, qui a lancé l'AirTag.
Oui.
Voilà, ces espèces de petites pastilles que tu glisses dans ton porte-monnaie, ouais, dans ta valise, dans ton sac. Voilà, et qui n'a ni batterie, ni carte SIM, mais qui, en passant à côté d'un iPhone, bah, se géolocalise et renvoie l'information à son propriétaire. Ce qui est une excellente façon aussi de répondre à ce besoin et qui a, voilà, si tu ne t'appelles pas Apple, tu ne peux pas le mettre en place.
Oui, c'est sûr.
Voilà, donc voilà, aujourd'hui, me concernant en tout cas, ça n'a jamais été la volonté d'être à mon compte qui m'animait, mais surtout l'envie de donner naissance à des produits ou des services de mon invention. Même si aujourd'hui, je suis mon propre chef, ça m'offre une liberté, une qualité de vie que j'aurais jamais soupçonné avant et dont je n'ai plus du tout envie de me passer.
Ouais.
Donc ça n'a pas été l'objectif initial, mais je reconnais qu'aujourd'hui, c'est un plus indéniable.
Ouais. Donc je vois que tu as surtout de l'envie de créer, quoi, créer de la valeur, que ce soit dans le service ou dans l'objet. Et moi, ça m'amène vers une autre question, surtout des challenges dans la création de l'entreprise et des valeurs que tu veux transmettre. Quel a été pour toi ton plus gros challenge dans la création de ton entreprise?
Alors, pour être totalement franc et transparent, mon plus gros challenge de très loin, ça a été de manager ma sœur.
Ouais.
Ma sœur est très particulière dans son approche sociétale, sociale, communicative, etc. De par certainement les épreuves qu'elle a traversées depuis qu'elle est née. Et ça m'amène à une recommandation pour tous nos auditeurs. Réfléchissez bien avec qui vous vous associez.
Oui.
Votre capacité à communiquer ensemble, vos complémentarités, vos ambitions et vos égos. N'hésitez pas à établir une charte formalisant les règles du jeu, à formaliser vos valeurs, vos objectifs. Signez-le, ça peut paraître débile au début, mais... C'est un petit peu comme un contrat de mariage. Hein. C'est quand on divorce qu'on n'en a pas besoin. Hein. C'est pas avant. Donc là, on ne parle pas de la fin, mais on parle de pendant votre collaboration, qui va, j'espère pour vous, durer des années, des décennies peut-être, il faudra vous référer à ce document qui était le document qui formalisait votre état d'esprit au début, au démarrage de l'aventure. Faut pas hésiter à s'y référer plusieurs fois par an, ensemble, afin de vous assurer de ne pas dériver de façon involontaire. Vous pouvez changer votre stratégie, vous pouvez faire des choix. Bien entendu, il faut savoir s'adapter en permanence, être résilient. Mais il n'empêche que les valeurs, ça reste quelque chose de fondamental et il faut y veiller. Et il faut surtout pas que l'un puisse se faire écraser par l'autre ou que l'un puisse perdre toute son énergie à essayer de tenir l'autre dans la ligne directrice initiale.
Et comment vous organisez au quotidien, toi en particulier, aujourd'hui, comment tu t'organises?
Aujourd'hui, moi, je travaille de chez moi.
Oui.
Hein, donc, je me suis fait un bureau dans la maison. C'est génial. Hein. J'ai vu sur le jardin les petits écureuils, les lapins qui passent.
Bah, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. ça change des usines où tu vois pas la lumière du jour du matin au soir. Hein.
Oui.
Donc, ma sœur, elle habite Paris, moi j'habite à côté de Tours, donc. Et donc on communique essentiellement par téléphone, par visio.
Oui.
Pareil avec tous les responsables d'agence, hein, ils sont en réseau dans toute la France,
oui.
Puisque ça s'étend de l'Île-de-France jusqu'au Bordelais, en passant par les Pays de la Loire pour l'instant, et ça continue à grossir. Donc, on travaille essentiellement comme ça. Alors c'est marrant parce qu'avant le Covid... Quand on parlait de faire une visio avec des gens, d'échanger avec les familles par téléphone pour leur faire un devis, tout le monde nous regardait avec des gros yeux. Non, mais vous êtes fous, vous êtes dans le médico-social, il faut rencontrer les gens quand même et tout ça. Depuis le Covid, vous déplacez, vous? Bah, nous, on fait des visios, pourquoi?
Ouais.
Donc, on était un peu en avance sur notre temps, mais finalement, l'histoire nous a rattrapés et aujourd'hui, on est complètement dans la mouvance. Et ça tombe bien parce que c'est la façon dont on travaille.
te remercie pour ton écoute. Cette première partie t'a plu ? Je te propose de nous retrouver dès vendredi prochain pour la deuxième partie de cet épisode. En attendant, et pour nous soutenir, tu peux liker cet épisode, tu peux aussi t'abonner sur notre page Bise de Tour sur la plateforme podcloud.fr ou sur la plateforme d'écoute de ton choix. À bientôt !